Les podcasts d'AFDS.TV. Les suppléments d'Aux Frontières des Séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. La hit série Héloïse Rouard.
Aujourd'hui, nous allons parler d'une hit série Mozart in the Jungle avec Tilman Villette.
Bonjour.
Et Nathanaël Picasse.
Bonjour à tous.
Alors Tilman, cette série, elle parle de quoi? De musique, je suppose.
Oui, ça parle de musique et de musique classique en fait. Donc le titre Mozart in the Jungle, comme tout le monde a compris, c'est une référence à Mozart. Et in the Jungle, c'est un peu comme la jungle urbaine. Donc ça se passe à New York. C'est une série qui a été produite par Amazon Studios. Donc ça fait partie des nouvelles séries qu'Amazon a produites en 2014. Donc pour petit rappel, en février 2014, Amazon avait lancé 6 pilotes avec donc possibilité de télécharger ces pilotes, de réagir par rapport à ces pilotes-là et aux téléspectateurs de voter également pour les pilotes préférés. Et en fonction des votes, eh bien, les séries qui auraient remporté le plus de suffrages auraient droit à ce moment-là à une saison complète.
Moi, je trouve ça intéressant comme démarche de demander aux gens de voter pour voir quelle série vous voulez développer davantage. Ça, au moins, le public a vraiment son mot à dire dès le départ. Mais est-ce qu'après, pour la suite de la série, le public a toujours son mot à dire? Ou je te pose une colle.
Ah bah non, justement. Alors là, le public, il a plus son mot à dire, puisqu'en fait, après le pilote, ben, on passe à la production de la série en tant que telle. Les 9 épisodes restants sont tournés à la suite et diffusés. Alors ici, seulement dans le cas de Mozart in the Jungle, à partir de décembre 2014. Donc, c'est diffusé de la même manière que, par exemple, sur Netflix, c'est-à-dire qu'on balance tous les épisodes en une fois. Mais donc, effectivement, alors, 10 mois après le lancement du pilote qui avait été diffusé. Mozart in the Jungle n'a pas été la série qui a remporté normalement le plus de suffrages. Ça a été la série Transparent qui a fait un petit buzz au dernier Golden Globe en remportant quelques prix. L'enthousiasme et les critiques étant tellement bonnes par rapport à Mozart in the Jungle que Amazon a décidé également de donner sa chance à cette série-là. C'est une série en fait qui est basée sur un livre qui s'appelle Mozart in the Jungle, Sex, Drugs and Classical Music, qui était donc écrit par Blair Tyndale en 2005. Et c'était en fait un livre fortement autobiographique où elle racontait sa carrière professionnelle en tant que musicienne dans l'orchestre philharmonique de New York et surtout son expérience avec un chef d'orchestre assez particulier, donc c'était Gustavo Dudamel. Et ici en fait on reprend la même idée de ce chef d'orchestre un peu excentrique, mais il est renommé Rodrigo de Souza. On met en scène donc la vie d'une jeune joueuse de hautbois qui s'appelle Hayley. Elle est jeune, elle gagne sa vie difficilement à New York, parce que c'est pas évident non plus pour les musiciens.
C'est assez marrant qu'ils en ont fait une joueuse au bois, parce que c'est pas spécialement le genre d'instrument qui vient tout de suite en tête. Enfin, c'est pas l'instrument qui est glamour. On imagine plutôt le violon ou le piano, mais le hautbois, ça n'excite pas beaucoup de monde, a priori.
C'est pas super glamour, effectivement. Maintenant, c'est un instrument qui, on peut entendre le seul son du hautbois et trouver ça mélodieux. Il y a des instruments où seul ça donne pas grand chose, ben le hautbois ça continue de fonctionner malgré tout. Et alors cette jeune femme, elle gagne sa vie difficilement, comme je disais, elle fait de la musique souvent pour des mauvaises comédies musicales à Broadway, elle donne des cours à des enfants riches de la City, et puis elle, un peu par un concours de circonstances, elle fait la connaissance donc de Rodrigo de Souza, qui en fait vient d'arriver à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York parce que il remplace un ancien maestro vieillissant et il arrive avec toutes ses idées, toute sa fougue et surtout son excentrisme. Donc on est dans quelque chose de très cloisonné, Philharmonique de New York, très un peu poussiéreux, et lui il arrive en faisant un peu une révolution dans cet orchestre en demandant aux joueurs de jouer sans instrument à un moment donné, donc de faire semblant de jouer, ou alors en faisant venir des animaux sur la scène pendant que les gens répètent, etc. Donc voilà, il est un peu crazy comme ça, et c'est vrai que ça déstabilise les plus anciens, ça les fait rire, certains ça les amuse, certains se sentent justement un peu plus revitalisés grâce à ça. Par contre, les exécutifs qui sont derrière, qui gèrent l'argent, évidemment, ils voient ça un peu d'un plus mauvais œil parce que il se plie très difficilement à toute la batterie de promo, aux photos, il a ses idées, il veut pas par exemple se présenter à certains galas de charité, genre de choses, enfin, voilà. Donc c'est un peu un chamboulement. Et alors on va suivre durant toute cette saison là, eh ben cette installation un peu rock'n'roll de ce nouveau chef, ainsi que l'implantation, on va dire, de Hayley dans ce groupe qui est très fermé, très concurrentiel malgré tout, et également ben, d'autres personnes, alors d'autres musiciens de ce groupe qui vont être des personnages un peu secondaires. Et alors on suit également toujours l'ancien maestro qui accepte très difficilement de se voir remplacer surtout par un jeune excentrique, et qui voit finalement sa vie partir, en soi toute sa carrière disparaître, et en même temps la carrière d'un musicien souvent c'est aussi une grosse partie de sa vie.
Et le monde de la musique classique, c'est quand même un monde un petit peu à part. Quand on n'est pas spécialement fan de musique classique, on arrive à suivre la série, c'est pas hermétique?
C'est une série quand même un peu classique, ça il faut le dire. Ça reste très bourgeois en new-yorkais, tout est toujours dans des beaux endroits, c'est un peu aseptisé par moments. Mais le gros point fort quand même de la série, c'est ce fameux maestro qui est interprété par Gael Garcia Bernal et qui interprète réellement le personnage avec fougue, avec fièvre, et qui justement, je pense, permet de chambouler ce milieu aseptisé, mais en tant que spectateur, on le ressent aussi. Ça chamboule cette série qui se veut un peu rigide, un petit peu vieillotte. Et il y a des scènes notamment où il est avec son ex-femme, où ils font des concertos de violon qui sont complètement survoltés, alors que ça reste de la musique classique. Le reste du casting est assez intéressant aussi, mais peut-être un peu plus convenu, puisque dans le rôle de l'ancien maestro, on retrouve Malcolm McDowell, qui n'est pas n'importe qui non plus, puisqu'on a pu le voir quand même dans pas mal de films au cinéma, notamment Caligula, et puis également ces dernières années dans quelques séries. On a également Bernadette Peters qui joue la directrice donc de l'Orchestre Philharmonique de New York. C'est une actrice qu'on a pu voir dernièrement dans quelques séries comme Ugly Betty, comme Smash, et qui est en fait une légende un peu de la scène de Broadway, puisqu'elle a eu plusieurs Tony Award également. Pour le rôle de Hayley, donc finalement un peu le rôle central malgré tout, c'est la jeune Lola Kirk qui joue ce rôle-là. On l'a pas vu dans beaucoup de films, on l'a vu dernièrement dans un tout petit rôle dans le film Gone Girl, mais c'est, je dirais, vraiment son premier grand éclat à la télévision. C'est une série assez courte, puisque ce n'est que 10 épisodes qui font plus ou moins entre 25 et 30 minutes. Pour la petite histoire aussi, elle a été produite et c'est une idée originale développée par le fils de Francis Ford Coppola, Roman Coppola, donc le frère de Sofia aussi. Donc, il y a quand même du beau monde derrière. On voit qu'il y a eu quand même un certain travail d'adaptation du bouquin. La mise en image est assez intéressante. Et même sans être fan de musique classique, moi j'avoue que j'aime un peu quand même la musique classique, donc c'est pour ça que je me suis aussi intéressé à la base. Mais on peut tout à fait accrocher, parce que on n'est pas non plus 100% tout le temps dans le milieu classique. On a des scènes qui se passent dans la vie de Hayley, on a des scènes qui se passent dans la vie ou le passé du personnage donc de Rodrigo de Souza, et donc il y a tout à fait moyen d'y trouver son compte. Si maintenant on est évidemment complètement réfractaire à ce milieu-là et qu'on ne supporte pas la musique classique, là effectivement je vous dirais éviter peut-être.
Est-ce qu'il est déjà prévu une saison 2?
Alors de saison 2 je ne sais pas encore s'il y en aura une, néanmoins il y a eu un bon retour critique, je crois que dans l'ensemble la série n'est pas déshonorante ni rien, donc je pense qu'il pourrait y avoir une deuxième saison, et surtout de toute façon quand on regarde la fin de la première saison, il est censé normalement y avoir une suite. J'ose espérer qu'il y aura au moins une deuxième saison, parce que c'est une série qui mérite tout à fait le coup d'œil. Et pour la petite anecdote, moi j'ai assisté au tournage de la série aussi. La scène de l'épisode 5 qui a été tournée, où on voit donc Gael Garcia Bernal en train de parler à un prêtre. C'était assez amusant, et j'ai vraiment, quand j'ai regardé en fait cette saison-ci, enfin j'ai pas tout vu encore, mais quand j'ai regardé cette saison, je m'attendais à voir une scène finalement en plein air avec énormément d'espace, et en fait ils ont filmé la scène mais vraiment comme si c'était une toute petite discussion en aparté, et donc c'était amusant aussi de pouvoir comparer ce qu'on voit dans la réalité quand on assiste à un tournage et puis quand on voit le résultat également sur écran. Et pour la petite anecdote bis, il est vraiment effectivement tout petit, Gael Garcia Bernal, en vrai.
Les podcasts d'AFDS.TV aux frontières des séries.